Chapitre 21. Youm. Jetons-le donc aux flammes. Alberto fit une pause et regarda par la fenêtre. « On dirait que le temps se couvre, » fit Sophie.
« Oui, il fait lourd. »«
C'est maintenant que tu veux me parler de Berkeley ?»«
Il est le deuxième grand empiriste anglais, mais il fait un peu bande à part. »
C'est pourquoi je préfère d'abord t'entretenir de David Hume, qui vécut de 1711 à 1776, et dont la philosophie reste la plus déterminante parmi les empiristes. C'est aussi lui qui permit au grand philosophe Emmanuel Kant de trouver sa propre voie philosophique.
Et si moi j'ai envie que tu me parles plutôt de Berkeley?
Ça ne change rien au programme que je me suis fixé. Je disais donc que Hume grandit en Écosse, dans les environs d'Édimbourg. Sa famille voulait qu'il devienne un homme de loi, mais lui prétendait qu'il sentait une aversion irrésistible envers tout ce qui n'était pas philosophie ou culture générale. Il vivait à la même époque que les grands penseurs français, Voltaire et Rousseau, c'est-à-dire au siècle des Lumières, et il passa une grande partie de sa vie à voyager en Europe avant de s'établir à Édimbourg. Il avait 28 ans quand parut son livre le plus important, « Traité de la nature humaine ». Mais il affirme avoir eu l'idée de son livre dès l'âge de 15 ans.
« Si je comprends bien, j'ai plutôt intérêt à me dépêcher. »
« Tu es sur la bonne voie. » « Mais si je devais élaborer ma propre philosophie, je la concevrais complètement différente de tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent. »
« Y a-t-il une dimension que nous aurions négligée ?»«
D'abord, tous les philosophes dont tu m'as parlé jusqu'ici sont des hommes, et les hommes vivent apparemment dans leur propre monde. Je m'intéresse davantage à la réalité, aux fleurs, aux animaux, aux enfants qui naissent et grandissent. Tes philosophes n'ont que le mot « homme » à la bouche, et voilà que tu veux encore m'en présenter un qui débarque avec son traité sur la nature humaine. On croirait parler d'un homme d'un certain âge, alors que la vie commence dès la grossesse et la naissance. On passe complètement sous silence les couches et les pleurs du nouveau-né, sans parler de l'amour et de l'amitié.
Tu as tout à fait raison. Mais Hume est justement un philosophe qui a un point de vue légèrement différent des autres. Il part vraiment de la vie de tous les jours et parvient très facilement à se mettre à la place des enfants, c'est-à-dire des futurs citoyens du monde.
Bon, alors je vais faire un effort.
En tant qu'empiriste, il s'attache à mettre de l'ordre dans les concepts et les constructions intellectuelles des précédents philosophes, car on trouvait à cette époque aussi bien des croyances héritées du Moyen-Âge que les pensées des rationalistes du XVIIe siècle. Hume voulut retourner à l'expérience sensible immédiate, car aucune philosophie, dit-il, ne pourra nous mener au-delà des expériences quotidiennes ou nous donner des règles de conduite différentes de celles qu'une réflexion sur la vie de tous les jours nous permet de trouver.
Cela paraît assez séduisant jusqu'ici. Tu n'aurais pas quelques exemples?
Il était communément admis à l'époque de Hume que les anges existaient. Qui dit ange veut dire un corps masculin avec des ailes. En as-tu déjà rencontré, Sophie?
Non.
Mais tu as vu des corps masculins?
Quelle question!
Et tu as déjà vu des ailes?
Évidemment, mais jamais sur un homme.
Selon Hume, l'ange est une association d'idées. Deux expériences différentes dans la réalité se trouvent arbitrairement réunies par l'imagination de l'homme. En d'autres termes, c'est une représentation fausse, comme tant d'autres, dont il faut se débarrasser au plus vite. Car, comme dit Hume, si nous prenons en main n'importe quel livre sur la conception de Dieu ou la métaphysique, nous devrions nous poser la question : contient-il le moindre raisonnement abstrait concernant la grandeur ou le nombre ? Non. Contient-il le moindre raisonnement fondé sur l'expérience concernant les faits et l'existence? Non. Alors, jetons-le aux flammes, car il ne peut contenir que des élucubrations de sophistes et des rêveries avortées.
On peut difficilement être plus direct.
Hume voulait revenir à la façon dont un enfant perçoit le monde, c'est-à-dire avant que les pensées et les réflexions n'aient envahi son cerveau. C'est bien toi qui trouvais que les philosophes se cantonnaient dans leur petit monde au lieu de s'ouvrir au monde réel.
Oui, quelque chose de ce genre.
Hume aurait pu dire exactement la même chose. Il commence par distinguer deux types de représentations chez l'homme, les impressions et les idées. Les impressions sont les perceptions vives et immédiates du monde extérieur, tandis que les idées sont les souvenirs attachés à ces impressions.
Des exemples, s'il te plaît.
Si tu te brûles à un poêle trop chaud, tu ressens une impression immédiate. Par la suite, tu vas y repenser et c'est ce que Hume appelle une idée. Avec cette différence que l'impression est beaucoup plus forte que le souvenir après coup. Autrement dit, l'impression des sens est originale, alors que le souvenir n'est qu'une pâle copie, car l'impression est la cause directe de l'idée qui va se nicher dans la conscience.
Jusque-là, je te suis.
Plus loin, Hume explique qu'une impression ou une idée peut être soit simple, soit associative. Tu te souviens que nous avons parlé d'une pomme à propos de Locke en disant que cette pomme était justement une association d'impressions. Nous pouvons aussi affirmer que la pomme est une idée associative.
Pardon si je t'interromps, mais est-ce vraiment si important que cela?
Et comment? Cela peut te paraître vain, mais tu ne dois jamais hésiter à t'interroger. Hume aurait sûrement reconnu que Descartes avait raison de vouloir vérifier l'état des fondations avant de développer le moindre raisonnement.
Je capitule.
Ce que Hume veut dire, c'est que nous pouvons associer des idées sans qu'elles correspondent à quelque chose de réel. Ainsi, il finit par exister des idées fausses qui ne correspondent à rien dans la nature. Nous avons déjà évoqué les anges, ou encore précédemment, les croque-enfants. Un autre exemple est Pégase, le cheval ailé. Dans tous ces cas, la conscience s'est amusée à bricoler des images pour leur donner une apparence d'impression vraie. La conscience, elle, n'a rien inventé. Elle est juste le théâtre où les représentations s'appellent, s'évoquent ou s'entraînent les unes les autres sans nulle intervention de la volonté.
Je commence à comprendre pourquoi c'est si important, en effet.
Hume s'attaque donc à toutes les représentations pour les décomposer en impressions simples et voir si elles correspondent à quelque chose de réel. Ainsi, beaucoup de gens à l'époque de Hume avaient des idées bien précises concernant le ciel ou la Nouvelle Jérusalem. Descartes, tu t'en souviens, affirmait qu'une idée claire et distincte correspondait obligatoirement à quelque chose de réel.
Je t'ai déjà dit que je ne suis pas spécialement tête en l'air.
Il va de soi que le ciel est une association de toutes sortes d'idées. Citons simplement quelques éléments. Dans le ciel, il y a une porte de perles, des rues pleines d'or, des foules d'anges, etc. Mais nous n'avons pas encore tout décomposé en facteurs simples, car une porte de perles, ou des rues pleines d'or, ou des anges, sont aussi des associations d'idées. Il faut distinguer les représentations élémentaires de perles, de portes, de rues, d'or, de créatures vêtues de blanc et d'ailes, avant de voir si elles correspondent à une impression simple que nous avons eue. Mais c'est bien le cas. Le problème, c'est que nous avons forgé à partir de ces impressions simples des réalités imaginaires.
Voilà. Tu as trouvé le mot juste. Nous appliquons en fait le même schéma que dans un rêve. Tout le matériau de base pour les rêves s'est présenté un jour à nous sous forme d'impressions simples. Quelqu'un qui n'aurait jamais vu d'or ne pourrait pas non plus s'imaginer une rue remplie d'or.
C'est pas bête ça. Mais alors Descartes et sa représentation claire et distincte de Dieu, qu'est-ce qu'il en fait?
Hume répond que nous voyons en Dieu un être infiniment intelligent et bon. Ce qui est une association d'idées avec d'un côté quelque chose d'intelligent et de l'autre quelque chose de bon. Si nous n'avions su ce qu'était l'intelligence ou la bonté, nous n'aurions pu forger un tel concept de Dieu. Nous considérons aussi qu'il est un père sévère mais juste. Là encore, trois idées. Père, sévère et
juste.
À la suite de Hume, beaucoup de penseurs ont vu dans la religion une critique adressée à notre propre père quand nous étions enfants. L'image du père a finalement conduit à l'image d'un père au ciel.
C'est peut-être vrai, mais je ne vois pas pourquoi Dieu serait nécessairement un être de sexe masculin. Maman disait parfois, histoire de rétablir un peu l'équilibre, « Notre mère qui êtes aux cieux ».
La modernité de Hume se vérifie tous les jours, car nous utilisons la plupart du temps des concepts associatifs sans nous interroger une seconde sur leur valeur. Qu'en est-il du « moi », par exemple, c'est-à-dire du noyau de la personnalité? C'est pourtant sur cette représentation que Descartes avait fondé toute sa philosophie.
J'espère que Hume n'essaye pas de nier que je suis moi, parce que dans ce cas, il peut délirer longtemps.
Écoute, Sophie, s'il y a une chose que tu dois retenir de ton cours de philosophie, c'est bien de ne pas tirer de conclusions hâtives.
Continue.
Applique la méthode de Hume sur ce que tu conçois comme ton moi.
Bon. Je dois d'abord me demander si c'est une représentation simple ou associative.
Et tu en déduis?
Que je me perçois plutôt comme un ensemble assez complexe. Mon humeur est très changeante et j'ai du mal à prendre des décisions. Je suis aussi capable d'aimer et de détester la même personne.
La représentation de ton moi est donc une association d'idées.
Parfaitement. Puis je dois me demander si je possède une impression de mon propre moi qui corresponde à ça. Je dois bien en avoir une. Je l'ai en permanence, non?
Pourquoi sembles-tu hésiter sur ce point?
C'est parce que je change tout le temps. Je ne suis pas la même aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Mon humeur, mais aussi l'image que j'ai de moi-même, se modifie d'un instant à l'autre. Il arrive que je me perçoive comme un être radicalement neuf.
Le sentiment d'avoir un noyau de personnalité irréductible et immuable est donc illusoire. La représentation du moi est en fait une longue chaîne d'impressions isolées que tu n'as pas vécues simultanément. Une collection de divers contenus de conscience qui se succèdent à toute vitesse et qui changent et bougent constamment, dit Hume. Nous n'avons donc pas de personnalité de base où viendraient s'inscrire et s'enchaîner par la suite toutes les émotions et les concepts. C'est comme un film à l'écran. Les images défilent si vite que nous ne voyons pas que le film est en fait constitué d'une infinité d'images isolées. En réalité, un film n'est qu'une somme d'instants.
Je crois que j'abandonne.
Tu veux dire que tu abandonnes la représentation fallacieuse de ton moi que tu croyais immuable?
Je suis bien obligé.
Avoue que tu n'étais pas parti pour au début. Pourtant, quelqu'un d'autre que Hume, 2500 ans plus tôt, avait analysé la conscience de l'homme et détruit le mythe d'un moi irréductible.
C'était qui?
Bouddha. Leurs formulations sont si proches que c'en est presque troublant. Bouddha considérait la vie de l'homme comme une suite ininterrompue de cycles psychiques et physiques qui modifiaient à chaque instant l'être humain. Le nouveau-né n'est pas le même que l'adulte, et je ne suis pas aujourd'hui la même personne qu'hier. De rien je ne peux dire « ceci m'appartient », dit Bouddha, et rien ne me permet de dire « ça, c'est moi ». Il n'existe pas de « moi » ou de noyau immuable de la personnalité.
C'est vraiment très proche de Hume, en effet.
Dans le même ordre d'idées, les rationalistes avaient également affirmé l'immortalité de l'âme.
Mais ça aussi, c'est une idée fausse, non?
Oui, aussi bien pour Hume que pour Bouddha. Sais-tu ce que dit Bouddha à ses disciples avant de mourir?
Comment le saurais-je?
Toutes les choses créées sont condamnées à disparaître. Aussi, travaillons à notre salut, dit-il. Hume aurait pu dire la même chose, et qui sait, même Démocrite. Nous savons en tout cas que Hume refusa d'essayer de démontrer l'immortalité de l'âme ou l'existence de Dieu. Non qu'il en exclut la possibilité, mais croire qu'on pouvait fonder la foi religieuse par la raison humaine relevait, selon lui, de l'hérésie rationaliste. Hume n'était pas chrétien, mais
il n'était pas non plus athée. Il était ce que nous appelons un agnostique.
Ce qui signifie
un agnostique est quelqu'un qui ne sait si Dieu existe. Quand Hume, sur son lit de mort, reçut la visite d'un ami qui lui demanda s'il croyait à une vie après la mort, Hume lui aurait répondu qu'un morceau de charbon jeté au feu pouvait ne pas brûler.
Ah bon ?
Sa réponse dénote bien sa totale liberté de jugement. Il ne reconnaissait comme vrai que ce qu'il avait perçu comme tel par ses propres sens. Il laisse sinon le champ ouvert à toutes les hypothèses. Il ne rejetait pas la foi chrétienne ou la croyance au miracle. Mais dans les deux cas, il est question de foi et non de savoir ou de raison. On peut en gros affirmer que le dernier maillon entre la foi et la raison se brise avec la philosophie de Hume.
Mais tu as dit qu'il ne rejetait pas les miracles.
Ce qui ne veut pas dire qu'il y croyait, bien au contraire. Il constate seulement le besoin qu'ont les hommes de croire à des événements que nous qualifierions aujourd'hui de « surnaturels ». Mais ce n'est pas un hasard si tous ces miracles se passent très loin d'ici, il y a très, très longtemps. Hume refuse de croire aux miracles tout simplement parce qu'il n'en a jamais vu de ses propres yeux. Mais que les miracles n'existent pas, il n'en a pas de preuves tangibles non plus.
Tu peux reprendre ce dernier point ?
Hume considère le miracle comme une rupture avec les lois naturelles. Mais il est absurde de dire que nous avons une expérience sensible des lois naturelles. Nous voyons bien qu'une pierre tombe par terre si nous la lâchons. Mais si elle ne tombait pas, nous en aurions tout autant fait l'expérience.
J'aurais pourtant dit que c'était un miracle ou quelque chose de surnaturel.
Tu crois donc qu'il existe deux natures ? Une nature et une surnature? Ne sens-tu pas que tu retombes dans les propos nébuleux des rationalistes?
C'est possible, mais je pense que la pierre retombera systématiquement par terre si je la lâche.
Et pourquoi ça?
Là, je trouve que tu exagères.
Mais non, Sophie, un philosophe ne se posera jamais assez de questions. C'est peut-être un des points clés de la pensée de Hume. Réponds-moi. Comment peux-tu être si sûr que la pierre tombera toujours par terre?
Je l'ai vu tant de fois que j'en suis sûr.
Hume dirait que tu l'as vu tomber un nombre incalculable de fois, mais tu n'as pas fait l'expérience qu'il en sera toujours ainsi. Il est courant d'affirmer que la pierre tombe par terre en vertu de la loi de la pesanteur. Mais nous n'avons jamais fait l'expérience d'une telle loi. Nous nous bornons à constater que les choses tombent à terre.
N'est-ce pas la même chose ?
Pas tout à fait. Tu es si habitué au déroulement des opérations que tu sais d'avance ce qui va se produire si tu laisses tomber une pierre. C'est ainsi que naissent les représentations de ce que nous désignons par « loi naturelle ».
Est-ce qu'il pense vraiment qu'une pierre peut ne pas tomber ?
Il était certainement aussi convaincu que toi à ce sujet. Mais il fait remarquer qu'il n'a aucune expérience sur le « pourquoi » de la chose.
Est-ce qu'on ne s'est pas un peu éloigné des enfants et des fleurs ?
Non, bien au contraire. Les enfants sont pour Hume les témoins de la vérité. Qui, de toi ou d'un enfant d'un an, serait le plus étonné de voir une pierre rester dans l'air une heure ou deux ?
Moi.
Et pourquoi ça, Sophie ?
Sans doute parce que l'enfant ne comprendrait pas à quel point cela est contraire aux lois de la nature.
Et pourquoi l'enfant ne comprendrait-il pas que c'est contraire aux lois de la nature?
Parce qu'il n'a pas encore appris comment est la nature.
Ou disons que la nature n'est pas encore devenue une habitude.
Ah, c'est là où tu voulais en venir. En somme, Hume voulait que les hommes gardent leur sens en éveil.
Tiens, je te donne un exercice. Si un petit enfant et toi assistiez à un tour de magie, comme de voir quelque chose flotter dans l'air, lequel des deux, selon toi, s'amuserait le plus?
Je pense que ce serait plutôt moi.
Et pourquoi, à ton avis?
Parce que je me rendrais compte à quel point c'est incroyable.
Exactement. Le petit enfant n'éprouve aucun plaisir à voir les lois de la nature transgressées, car il ne les connaît pas encore. l'enfant n'est pas encore devenu l'esclave des attentes dues à l'habitude.
L'enfant est sans préjugés, qualité première d'un grand philosophe. Il perçoit le monde tel qu'il est, sans idées a priori qui faussent notre vision d'adulte.
Chaque fois que j'ai des préjugés, je le regrette, c'est vrai.
Quand Hume traite le problème de l'habitude, il se concentre sur la loi de causalité. Selon cette loi, chaque événement a une cause.
Hume prend l'exemple de deux boules de billard. Si tu heurtes avec une boule noire une boule blanche à l'état de repos, que va-t-il arriver à celle-ci?
Elle va se mettre à bouger?
Oui. Et pourquoi?
Mais parce qu'elle a été touchée par la boule noire, pardi.
On dit habituellement, dans ce cas, que la boule noire est la cause du mouvement de la blanche, n'est-ce pas?
Mais rappelle-toi que nous n'avons le droit d'énoncer quelque chose que si nous en avons fait l'expérience avant.
Eh bien, je l'ai souvent observé, car Yoren a une table de billard dans la cave.
Hume dit que tu as juste pu observer que la boule noire a heurté la boule blanche et l'a mise en mouvement, mais que tu n'as pas perçu réellement le lien de causalité. Tu as pu constater que ces deux événements se suivaient dans le temps, mais tu ne peux pas pour autant affirmer que le deuxième événement se produit à cause du premier.
Ce n'est pas un peu tiré par les cheveux?
Non, c'est important.
Cette succession d'événements n'est pas inscrite dans les objets eux-mêmes, mais dans notre conscience qui s'y attend. Et qui dit attente dit « nous l'avons vu », habitude. Un petit enfant n'aurait pas été spécialement surpris si les deux boules étaient restées immobiles après s'être touchées.
Hume démontre ainsi que les soi-disant « lois naturelles », comme la « loi de cause à effet », relèvent de l'habitude et ne sont aucunement fondées sur la raison. Elles ne sont pas logiques ou illogiques, elles sont comme elles sont, un point c'est tout. Nous ne naissons pas avec des idées préconçues sur la bonne marche du monde. Le monde se présente à nous tel qu'il est, et nous le découvrons jour après jour grâce à nos sens.
Ça fait vraiment une si grande différence que ça?
Oui, car si nous sommes trop victimes de nos attentes, nous risquons de tirer des conclusions hâtives.
Comme par exemple?
Eh bien, même si je vois un troupeau de chevaux noirs, cela ne veut pas dire que tous les chevaux sont noirs.
Bien sûr.
Et même si tu n'as rencontré toute ta vie que des corbeaux noirs, cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'existe pas de corbeaux blancs. Le philosophe, comme le scientifique, veille à n'exclure aucune possibilité. La chasse aux corbeaux blancs est en quelque sorte le premier devoir de la science.
Je vois ce que tu veux dire.
Dans le lien de cause à effet, on peut citer le phénomène de l'orage, où beaucoup s'imaginent que l'éclair est la cause du tonnerre, parce que le tonnerre a toujours quelques secondes de décalage avec l'éclair. Cet exemple n'est pas si différent de celui des boules de billard. Aussi, je te demande, l'éclair est-il vraiment à l'origine du tonnerre?
Pas vraiment. En fait, l'éclair et le tonnerre se produisent simultanément,
parce que tous deux sont le résultat d'une décharge électrique. Ainsi, on voit qu'en réalité, c'est un troisième facteur qui est la cause de ces deux phénomènes.
Je comprends.
Un empiriste contemporain, Bertrand Russell, a donné un exemple encore plus grotesque. Un poulet, qui remarque chaque jour qu'on lui donne à manger, après que le fermier a traversé la cour, finira par trouver un lien de cause à effet entre le fermier qui traverse la cour et la nourriture qu'on met dans son écuelle.
Et si un jour on ne lui donne pas à manger?
C'est le jour où le fermier traverse la cour pour lui tordre le cou.
Quelle horreur!
Que deux choses se succèdent dans le temps ne signifie pas nécessairement qu'il y a un lien de causalité. C'est un des premiers devoirs du philosophe que de mettre justement en garde les hommes contre la tentation de tirer trop rapidement des conclusions. Car on court alors le risque de retomber dans la superstition.
Comment ça?
Un chat noir traverse la rue devant toi. Un peu plus tard dans la journée, tu tombes et te casses un bras. Et pourtant, il n'y a aucun lien de cause à effet entre les deux événements. Dans le domaine scientifique, il s'agit aussi de rester très vigilant. Même si beaucoup de personnes guérissent après avoir pris un certain médicament,
rien ne prouve que c'est le médicament qui les a guéris. C'est pourquoi il est important de faire croire à une équipe volontaire qu'ils reçoivent le même médicament, alors qu'on ne leur donne qu'un placebo à base de farine et d'eau. Si ces personnes-là guérissent aussi, c'est alors la preuve qu'il y a un troisième facteur en jeu, comme la foi dans le médicament, par exemple.
Je crois que je commence à comprendre ce qu'on entend par empirisme.
Dans la morale et l'éthique aussi, Hume s'attaque à la pensée rationaliste, selon laquelle la différence entre le bien et le mal est inscrite dans la raison de l'homme. Hume, au contraire, soutient que ce n'est pas la raison qui détermine ce que nous disons ou faisons.
C'est quoi alors?
Ce sont nos sentiments. Si tu décides d'aider quelqu'un qui en a besoin, ce sont tes sentiments qui te poussent à agir, et non ta raison.
Et si je ne le fais pas?
C'est encore une question de sentiment. Ce n'est pas juste ou injuste de ne pas aider quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est simplement lâche.
Il doit bien y avoir une limite. Tout le monde est d'accord pour admettre qu'on n'a pas le droit de tuer quelqu'un.
Selon Hume, nous nous sentons tous concernés par le bien-être de nos semblables. Nous possédons tous la faculté de compatir, mais cela n'a rien à voir avec la raison.
Je n'en suis pas si sûr.
Cela peut s'avérer parfois utile d'écarter quelqu'un de son chemin, Sophie. Surtout si on s'est fixé un but bien précis. C'est une recette qui a fait ses preuves, crois-moi.
Non, là tu exagères.
Alors explique-moi donc pourquoi on laisserait en vie quelqu'un de gênant.
Mais l'autre aussi aime la vie. On n'a pas le droit de le supprimer.
Est-ce là une preuve logique?
Je ne sais pas.
À partir d'une phrase descriptive, « mais l'autre aussi aime la vie », tu es passé à une phrase d'énoncé normatif, « on n'a pas le droit de le supprimer ». D'un point de vue purement formel, c'est une aberration. C'est comme si tu disais que beaucoup de gens trichent sur leur déclaration de revenus, c'est pourquoi je dois aussi tricher. En d'autres termes, nous ne devons jamais glisser d'une phrase décrivant ce qui est à une phrase de type « il faut ». Et c'est pourtant bien ce que nous faisons à longueur de temps. Les journaux, les programmes politiques et les discours de l'Assemblée en sont truffés. Tu veux quelques exemples?
Volontiers.
De plus en plus de gens désirent voyager en avion. C'est pourquoi il faut construire davantage d'aéroports. Est-ce que ça te semble une bonne conclusion?
Non, c'est n'importe quoi. Et l'environnement dans tout ça? Tant qu'à faire, il faudrait plutôt développer le réseau de trains.
Ou encore, l'exploitation des nouvelles plateformes pétrolières permettrait une augmentation de 10% du niveau de vie. C'est pourquoi nous devons nous dépêcher de les construire.
Quelle idiotie! Là encore, et l'environnement? Quant au niveau de vie, il est déjà assez haut comme ça en Norvège.
Il arrive donc qu'on dise que cette loi a été votée par l'Assemblée. Aussi, tous les citoyens doivent s'y conformer. Et pourtant, cela va souvent à l'encontre du désir de chacun de se soumettre à de telles lois arbitraires.
Je vois ce que tu veux dire.
Pour résumer, la raison ne peut nous dire comment nous devons agir. Et ce n'est pas en triturant nos méninges que nous nous comporterons en adultes responsables, car ce n'est qu'une question de cœur. Il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde à une égratignure au doigt. Dit Hume.
C'est terrifiant ce que tu dis là.
Écoute, après des inondations catastrophiques, n'est-ce pas seul notre cœur qui nous pousse à agir pour secourir les populations sinistrées? Si nous n'avions pas de sentiments et laissions parler notre raison froide, ne pourrions-nous pas penser qu'au fond, ce n'était pas une si mauvaise chose puisque ça supprime des millions de gens dans un monde déjà menacé par la surpopulation?
Ça me rend folle qu'on puisse faire ce raisonnement.
Tu vois bien que ce n'est pas ta raison qui est choquée.
Merci, ça va, j'ai compris.